Philippe, métaphysique à Fribourg, le 14 juin 83, premier cours.
C'est la dernière journée, puisque ce soir, ceux qui se sont indiqués pour les examens, alors je les passerai dans mon bureau là-bas. J'espère que tout le monde s'est indiqué, parce que après c'est difficile. Je reviendrai pour les licences. Alors si jamais il y avait encore quelque chose de retardataire, il y a toujours des retardataires, hein, depuis que Thomas a été absent le soir de la résurrection, il y a toujours des retardataires. Toujours. Alors, s'il y en a, vous leur direz, Prosper sera là pour vous dire qu'il y a encore possibilité peut-être de diminuer certains examens, de mettre entre deux. Bon, alors aujourd'hui, je voudrais avec vous poser le problème, au moins, du passage de la philosophie première à la théologie naturelle. C'est un passage très important, difficile, qui continue d'émouvoir les philosophes, ou de plus émouvoir du tout, ça dépend lesquels. Il y en a qui ont résolu le problème depuis Kant et qui pensent que Kant est une position absolument inamovible. C'est très curieux, vous voyez, ils acceptent que toute la philosophie grecque soit enterrée, mais Kant non. Alors que de fait, on devrait se poser le même problème, un problème critique par rapport à Kant, puisque Kant est un problème critique. Soyons critiques par rapport à Kant, puisqu'il est critique pour tout le reste. C'est une manière de le comprendre. Alors, d'essayer de comprendre que, de fait, cette position de Kant n'est pas une position absolue et qu'elle demande d'être reprise. Et de voir si vraiment Kant a critiqué tout. Parce que c'est évident que pour Kant, il n'y a pas de théologie naturelle. Le premier Kant en avait, le second n'en a plus. N'est-ce pas ? Avant Kant, on est en face d'un problème beaucoup plus vaste avec la philosophie grecque. On peut dire que c'est avec la philosophie grecque que le problème de la philosophie première et que la théologie naturelle s'est posé. Comment, de la philosophie première, nous passons à la théologie ? C'est Aristote le premier. Parce que pour Platon, d'une certaine manière, il n'y a pas de problème. La philosophie est tout de suite théologie. La dialectique est théologique. Puisque de fait, la philosophie commence avec la découverte des formes en soi. Les formes en soi conduisent normalement vers Dieu. Il y a une espèce de continuité philosophique très grande, et c'est pour ça qu'on dira que Platon est le père de l'ontologisme. Nous essaierons de poser le problème de l'ontologisme, parce que c'est très important. Mais on peut dire que Platon est le grand-père, parce que pour lui, la philosophie commence lorsqu'on est au-delà du sensible, au-delà du visible, et que la philosophie comme telle, c'est cette découverte du visible jusqu'à la source de tout l'invisible. Donc la philosophie commence avec l'invisible pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire le bien et l'un. Le problème beaucoup plus délicat, c'est chez Aristote. Ça a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre et ça continuera d'en faire couler beaucoup. D'essayer de comprendre comment la philosophie première d'Aristote conduit au problème de la théologie. Comment on passe de l'un à l'autre. Et comment il y a un lien organique entre les deux. Je dis bien organique. Un lien essentiel. Nous y reviendrons. Parce que c'est quand même très important de saisir cela. Voir quelle différence y a-t-il entre la philosophie première et la théologie première, la théologie naturelle. Chez Plotin, on retrouve la position de Platon. La théologie est une théologie. La philosophie est une théologie, immédiatement. Chez les stoïciens, juste avant Plotin, on peut dire que la théologie redevient pratique. C'est le problème de la providence. C'est le problème du gouvernement divin. Toute la morale stoïcienne repose sur ce regard de la providence et du gouvernement divin. On serait en face d'un ontologisme pratique. C'est en ce sens-là qu'il y a des liens entre les stoïciens et Kant. Parce que c'est vraiment le lien entre les deux. Le point de vue éthique est très lié à la providence. C'est très lié au gouvernement divin. Prenez dans Épictète, hein, c'est très très net. Quelle est la recherche éthique? C'est la conformité de notre volonté à la volonté de Dieu. C'est ça qui fait toute la recherche éthique. Donc on peut dire qu'on est en présence d'une position éthique théologale. C'est une position éthique théologale, une position éthique qui prend toute sa signification que grâce à un point de vue théologal. Les deux se tiennent. Donc on voit qu'en philosophie grecque, les positions ont été diverses. Hein. Je ne parle pas avant Platon, parce qu'on pourrait dire, évidemment, chez les présocratiques, que vous retrouvez encore des positions très variées. Le problème du passage de la philosophie à la théologie, il est donné immédiatement chez Parménide. Avec Parménide, il est donné tout de suite. Il est donné immédiatement. On peut dire qu'avec Parménide, on a immédiatement le passage de l'un à l'autre. Et donc, sa philosophie est théologique. Tandis que chez Héraclite, on ne peut pas dire cela. On peut dire qu'il y a une montée vers le logos. Bon. Le problème s'est posé d'une façon très différente avec les pères de l'Église. Avec le père de l'Église, je dirais que le problème s'est posé d'une manière réflexive. Presque tout de suite. Quel est le rapport entre l'intelligence et l'existé de Dieu? Ça s'est posé très vite, vous voyez, dès Saint Justin. Saint Justin est tout de suite un père apologétique. Père apologète, et saint Augustin a tout de suite posé le problème des rapports de l'intelligence par rapport à l'existence de Dieu. Est-ce que notre intelligence humaine est capable de prouver l'existence de Dieu? Et au fond, c'est le problème qui l'intéresse. Face aux athées, face aux païens. Oui, autrement dit, la foi a mûri l'intelligence humaine d'une manière telle que le problème ne se situe plus tout à fait de la même façon. Et le problème, alors, se situe de cette façon que grâce à la foi, je dépasse l'intelligence humaine. Je peux donc, grâce à la foi, me situer comme celui qui, dans une attitude réflexive, va se poser la question, quel est le lien entre l'intelligence humaine et l'existence de Dieu, qui ne pouvait pas se poser chez les Grecs. Ça se posait chez les Grecs, je crois qu'il n'y a qu'un seul cas où ça s'est posé. C'est Platon dans les lois. Platon dans les lois, face aux sophistes, dit que l'intelligence humaine est capable de découvrir l'existence de Dieu. Bon, il y a une attitude apologétique, si vous voulez. Il y a très peu d'attitude apologétique chez les Grecs. Je crois que c'est le seul cas. C'est Platon face aux sophistes. Et c'est dans les lois, un petit passage intéressant. Tandis qu'au contraire, chez les pères de l'Église, on peut dire que tout de suite le problème s'est posé de cette manière-là. De Saint Justin à Saint Thomas. C'est très curieux. Avec des variantes, hein, avec des variantes multiples, on va pas les voir, ce serait trop long. Mais au fond, le problème s'est toujours posé de cette manière-là. Comment l'intelligence humaine, comment le nous humain, se pose face à l'existence de Dieu. Est-ce que l'intelligence, alors presque tous, il y a une exception, presque tous, s'appuyant sur les textes de l'Écriture. J'ai relevé tous les textes que les pères de l'Église prenaient de l'Écriture. Et vous les avez en appendice, parce que c'est intéressant quand même de voir comment les pères de l'Église ont fouillé tous les textes de l'Écriture pour voir comment tous ces textes de l'Écriture, vous avez page 822, vous avez tous les textes de l'Écriture que les pères de l'Église ont utilisés pour voir comment, de fait, il est toujours dit que du visible, on passe à l'invisible. Et ça, c'est toujours été du visible à l'invisible. Et alors, l'intelligence humaine est capable du visible à passer à l'invisible. Ça, c'est le grand, là. J'allais dire, ça revient tout le temps. Deuxièmement, les pères de l'Église montrent que le tiesti de Dieu ne peut pas être atteint. Le cuivre, s'il s'agit des latins. Le tiesti, s'il s'agit des grecs. Le cuivre, c'est-à-dire l'essence de Dieu. Il s'agit des Français. L'essence de Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu? L'essence de Dieu ne peut pas être atteinte. On peut atteindre l'exister, l'essence. On ne peut pas atteindre l'essence de Dieu. Et quant à la Trinité, elle est inconnaissable. Donc il y a trois affirmations à peu près constantes chez tous les pères de l'Église. À peu près trois affirmations constantes. L'intelligence humaine est capable par elle-même de remonter jusqu'à l'existence de Dieu. L'intelligence humaine par elle-même ne peut pas atteindre ce que c'est que l'essence de Dieu, le quid, le tiesti. L'intelligence par elle-même est incapable d'affirmer l'existence de la Trinité. Et je crois que là on peut dire, c'est même, je crois que c'est la plus grande unanimité des pères. C'est intéressant parce que ça prouve qu'il y a là quelque chose de tout à fait fondamental par rapport aux nous. C'est ce que saint Thomas va reprendre sans aucune originalité. Sans aucune originalité. L'originalité de saint Thomas, à ce point de vue-là, est simplement de réaffirmer avec beaucoup plus de précision ce que les pères de l'Église ont dit. Et là, il est vraiment dans la ligne de toute la tradition des pères de l'Église. Alors, vous le voyez dans le Contra Gentiles, parce que si on suivait, je vais quand même faire avec vous un tout petit topic, là. C'est intéressant à voir ça. Donc, saint Thomas reprend la position des pères de l'Église. Entre saint Justin et saint Thomas, il y a quelqu'un qu'on ne doit jamais oublier. Parce que dans ce problème, il a posé très différemment des autres. C'est saint Anselme. On l'aime, qu'on ne l'aime pas, ça n'a pas d'importance. C'est saint Anselme. Saint Anselme est un père abbé, bec. Saint Anselme d'un père abbé qui est en face d'un novice qui a des crises de foi. Alors, un novice qui a peur, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que c'est vraiment? Alors, saint Anselme va lui montrer que s'il est intelligent, il doit dire que Dieu existe. La meilleure façon de le prendre, n'est-ce pas, dans sa partie la plus vulnérable. S'il est intelligent, il doit dire que Dieu existe. Et saint Anselme va écrire successivement trois livres, Monologion, Prosologion, Prosologion, Monologion, et puis le livre sur l'apologétique. Trois livres successifs pour montrer comment l'intelligence humaine, si elle est intelligente, et le grand texte que saint Anselme reprend, le texte du psaume, Incipiens dixit in corde suo non est Deus. Incipiens. Alors il envoie ça à son novice. Hein. Incipiens. Si tu es incipiens, c'est pas étonnant que tu sois comme ça. Mais si tu es intelligent, tu dois pouvoir découvrir que Dieu existe. C'est assez joli, vous voyez, de voir. Au fond, ce n'est pas de l'apologétique. C'est une espèce de secours tout à fait paternel à l'égard d'une intelligence qui commence à douter. C'est juste l'inverse du doute de Descartes. Juste l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Et pourtant, il y a une parade entre les deux. C'est très curieux. Mais sur les deux contraires, dans le même jeu. N'est-ce pas ? c'est saint Anselme et Descartes. Si on est cartésien, on aime beaucoup saint Anselme. C'est comme ça que les intellectuels français aiment beaucoup saint Anselme, parce qu'ils sont cartésiens. Ils aiment tous, on ne peut pas toucher à saint Anselme, c'est absolument impossible. Saint Thomas, ça ne signifie rien du tout. Mais saint Anselme, c'est très très important, parce que c'est au fond le fondement un tout petit peu de Descartes, mais c'est les deux extrêmes. Hein. Parce que saint Anselme n'est pas du tout à la période du doute, tandis que Descartes sera le doute. Alors, qu'elle va faire saint Anselme? Je ne veux pas lire les textes saint Anselme. Maintenant, nous n'avons pas le temps. Mais il faut les lire une fois dans sa vie. Il faut avoir lu une fois dans sa vie quand même les grands textes de saint Anselme sur la manière dont on peut considérer l'exister de Dieu, la manière dont on peut remonter jusqu'à l'exister de Dieu. Parce que c'est quand même quelque chose qui a joué de fait dans la littérature philosophique une très grande place. Ce n'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose quand même d'important. Il y a quelque chose. Donc saint Anselme, vous voyez bien comme date, hein, si vous demandez les dates, 1033-1109. Alors il y a le Monologion. Le Monologion, c'est saint Anselme qui commence à se faire la main. Alors il est évidemment pas très habile au point de départ, tandis que le Proslogion, c'est beaucoup plus habile. Et puis alors ensuite, alors le livre, le Liber Apologeticus, c'est beaucoup plus farouche encore, tu vois. Donc il y a les trois, il faut les lire les trois successivement, voir comment au point de départ saint Anselme va montrer que à partir des réalités, le premier raisonnement peut se résumer ainsi, si du moins on veut respecter rigoureusement les termes et les articulations du texte de saint Anselme. Tous les hommes ont des désirs. Toujours le désir. Hein. Désir jouir uniquement des choses qu'ils estiment bonnes. Il est donc normal que l'ignorant à qui s'adresse l'argumentation cherche d'où vient que sont bonnes les choses qu'il ne désire que parce qu'il les juge bonnes. Puisqu'il y a des biens innombrables et que de leur diversité multiple nous avons à la fois l'expérience et que nos sens corporels et le discernement par notre raison, ne faut-il pas croire qu'il existe quelque chose d'unique par quoi sont bonnes toutes les choses qui sont bonnes? Ce n'est pas la participation, il ne dit pas participation, mais c'est très proche de la participation. Oui. Alors au fond, c'est par le point de vue de la bonté. Ou bien chacune est-elle bonne par quelque chose de différent. De fait, il n'est pas douteux que toutes les choses qui peuvent être dites telles ou telles soient avec du plus et du moins, soit de manière égale. Le sont par quelque chose qui n'est pas particulier à chacune d'elles, mais qui est saisi par l'intelligence comme étant le même en toutes. Ainsi, toutes les choses qui, comparées entre elles, sont dites également justes, ou plus ou moins justes, ne peuvent être saisies par l'intelligence comme justes que par la justice. Le maxime est à l'air. Oui. Le plus et le moins. C'est l'argument du plus et du moins qui exige en premier. Vous constatez du plus et du moins dans les réalités bonnes, donc il faut nécessairement un premier. Alors, ça c'est le premier argument. Premier argument de saint Anselme, c'est le plus proche de la réalité. Puis progressivement, saint Anselme va dire, ah non, c'est pas suffisant, ça c'est... Il y a encore un principe qui est impliqué dedans. On touche encore du contingent. Il faut arriver à quelque chose de beaucoup plus absolu. Et là, c'est à partir de là qu'il va réfléchir sur la signification du nom de Dieu. Mais ce n'est pas la première réflexion de saint Anselme. Et c'est toujours très important de bien comprendre que ce n'est pas la réflexion première de saint Anselme. Quand on résume saint Anselme, on prend tout de suite ça. Ce n'est pas vrai. Il faut considérer qu'il est venu progressivement à cela pour pouvoir aider le petit novice dans sa crise. Pouvoir l'aider, faire sortir de sa crise. Alors il donne d'abord une argumentation à partir des réalités sensibles, puis nous arrivons à une réflexion à l'état pur sur la signification du nom de Dieu. Alors vous voyez, toute la difficulté vient de là. Le croyant parle de Dieu. Ça concerne les croyants. La foi en Dieu fait que lorsque je crois en Dieu, le nom de Dieu a une signification. Quelle est la signification du nom de Dieu? Si je réfléchis très bien, la signification du nom de Dieu, c'est la réalité à laquelle on ne peut rien ajouter, c'est-à-dire la réalité la plus grande qui soit. C'est de ce côté-là qu'immédiatement, Saint Anselme va s'orienter. La signification du nom de Dieu, le nom de Dieu, c'est celui à qui on ne peut rien ajouter. C'est celui qui est ultime, qui est dernier. Je ne peux pas aller plus loin. Dieu est celui dont la signification est la plus grande qui soit. Alors à ce moment-là, c'est très simple, la division vient à dire, bon, si la signification la plus grande qui soit, une réalité qui n'existe que dans mon intelligence et qui n'existe pas dans la réalité, a une signification moindre que la réalité qui existe dans mon intelligence et qui existe dans la réalité. Donc, Dieu existe nécessairement. C'est très simple comme raisonnement. Ça, l'inconvénient, c'est que c'est faux. C'est ça, l'inconvénient. Mais c'est très, très simple, merveilleux. Ça, c'est la signification. De la signification, j'aboutis à l'exister. J'ai dit que la signification de Dieu, elle enveloppe. On ne peut pas rien ajouter à Dieu. C'est évident. Le croyant dit, on ne peut rien ajouter à Dieu. Si vous ajoutiez quelque chose à Dieu, c'est plus Dieu. Donc, la signification du nom de Dieu, la signification la plus parfaite qui soit, la plus grande qui soit. Or, je dis une signification d'une réalité qui est une fois dans mon intelligence et qui n'est pas dans la réalité, est une réalité plus que, dont la signification est moins que si elle existe dans mon intelligence et dans la réalité. Vous voyez, alors on fait dans la signification une division. C'est ça qui est très curieux. La signification normalement relève de l'intelligence. C'est l'intelligence qui, à partir de la réalité, découvre la signification. La signification, c'est d'abord de l'intentionnel. Alors, on va diviser à l'intérieur l'intentionnel pur, qui n'existe que dans l'intentionnel, c'est-à-dire dans l'intelligence, et puis celui qui existe dans la réalité. Est-ce que je peux faire cette division? Toute la question est là. Est-ce que je peux faire cette division? C'est là où Kant dira sans talent, on a la même signification, c'est une signification. Donc au niveau de la signification, je ne peux pas faire la distinction. On voit très bien l'opposition tout de suite, directe. Parce que c'est du côté de la signification. Ce n'est pas du côté de la réalité. Ce n'est pas du côté du jugement d'existence. C'est du côté de la signification. La signification, c'est du côté de l'appréhension. C'est le problème de l'appréhension de la signification. C'est la signification du nom. Ce n'est pas le problème, la question du jugement d'existence. Alors, comme c'est du côté du nom, comme c'est du côté de l'appréhension, bien, on ne peut pas, par la signification, rejoindre le jugement d'existence. Oui, comme c'est tout de suite, Saint Anselme pose immédiatement un problème qui sera très important après, le problème de l'appréhension. Et le problème du savoir si je peux, à partir d'une idée, affirmer l'existence d'une chose. Tout problème de Descartes. À partir de l'idée d'infini, je pose l'existence d'une chose. L'idée d'infini ou la signification du nom de Dieu qui est infini, ça se touche. C'est assez proche. La seule différence, c'est que Saint Anselme s'appuie sur la foi et Descartes s'appuie sur l'idée. Mais c'est la même chose, c'est l'infini. C'est l'infini qui est l'argument, qui est le levier pour montrer que Dieu existe, le levier pour montrer que cette idée d'infini applique nécessairement l'existence de Dieu. Donc, formellement, c'est la même chose. C'est un fait très curieux. Saint Anselme Descartes, oui, et Kant qui vient dire non. Alors ça, c'est très important parce que Saint Anselme va jouer un rôle extrêmement important dans la philosophie de Saint Thomas. Même dans la philosophie de Saint Thomas. Saint Thomas n'a jamais été enseignant. Il a toujours critiqué Saint Anselme avant Kant. On devrait considérer que Saint Thomas est intelligent parce qu'il a critiqué Saint Anselme comme Kant l'a critiqué. Là, ils sont ensemble. C'est pas si mal, n'est-ce pas? Donc, s'ils sont ensemble sur le même terrain d'opposition, non? On reconnaît que Saint Anselme, que Kant est très intelligent parce qu'il a critiqué Saint Anselme, mais on ne reconnaît pas que Saint Thomas est intelligent parce qu'il a critiqué Saint Anselme avant. C'est intéressant de voir les a priori affectifs, n'est-ce pas, au point de vue intérêt. Alors, un autre problème, hein, vous voyez, là je soulève tout de suite ce qui est au cœur de Saint Anselme, au cœur de l'argument de Saint Anselme. Un autre problème, c'est de savoir comment la foi nous donne un nom de Dieu. Comment je puis, parce que c'est ce que va faire Saint Anselme, comment je puis dire que la signification du nom de Dieu qui m'est donné dans la foi peut être saisie uniquement par la raison. Autrement dit, puis-je séparer dans mon adhésion de foi la signification du nom de Dieu de l'adhésion même de foi? Et Saint Anselme le fait, puisqu'il prétend que je peux, au terme de l'argumentation, ne plus regarder la foi, d'être uniquement face au nom de Dieu. Il est parti de la foi, il la laisse tomber, il la laisse tomber pour ne regarder que la signification. Ça aussi, ça me semble un aspect qui n'est pas tout à fait juste. Bon, il faut au moins retenir, hein, et si vous avez le temps de le faire, ne faites pas seulement ça pour les examens. Faites-le par amour pour Saint Anselme, n'est-ce pas? Parce que c'est intéressant de voir la manière dont Saint Anselme pose le problème de l'existence de Dieu. C'est une position très importante, qui a joué un rôle très important. Ensuite, nous avons la position de Saint Thomas. Je prends tout de suite la position de Saint Thomas, parce que c'est celle qui nous intéresse peut-être ici spécialement, du moins ceux qui s'intéressent à Saint Thomas, savent qu'il y a dans Saint Thomas une position particulièrement nette vis-à-vis de l'existence de Dieu. Nous allons essayer de comprendre ce que Saint Thomas dit à propos de l'existence de Dieu. Saint Thomas, 1225-1274. Alors, très rapidement, pour essayer d'aboutir, si vous voulez, aux cinq voies de Saint Thomas. Parce que je crois qu'on ne peut pas parler de ce problème sans regarder les cinq voies de Saint Thomas. Ça me semble impossible. Les voies de Saint Thomas représentent, je crois, historiquement, si on est loyal, hein, sans aucun a priori affectif, les cinq voies de Saint Thomas représentent quand même un sommet dans ce problème de l'intelligence face à l'existence de Dieu. Un sommet très difficile à comprendre. Comme toujours un sommet. L'Himalaya, pas comment. C'est beau à regarder, mais à l'escalader, c'est difficile. Eh bien, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Vous voyez, je crois qu'on peut dire ceci. Hein, vous voyez bien le raisonnement que je prends. Du côté des philosophes grecs, le problème s'est posé entre philosophie première et théologie. Du côté des pères de l'Église, c'est le problème de la foi. La foi qui assume l'intelligence. Et parce que la foi assume l'intelligence, comment l'intelligence va pouvoir par elle-même découvrir l'existence de Dieu? Saint Anselme donne une solution par la signification. La position de Saint Anselme, très intéressante, très originale et intéressante à noter. C'est que pour Saint Anselme, on peut découvrir l'existence de Dieu par la signification du nom de Dieu. Or, le nom de Dieu m'est donné par la foi, Et donc, je peux, par l'intelligence, découvrir l'existence de Dieu. Vous voyez, une petite pétition de principe. Hein. Alors, on pourrait dire que les traditions religieuses me donnent le nom de Dieu. Et donc, que les traditions religieuses suffisent à prouver l'existence de Dieu. Vous voyez, on pourrait dire ça. Saint Anselme serait de notre jour et dirait ça. Alors, tous les pères de l'Église, alors, je mets Saint Anselme comme une position très particulière. Après Saint Anselme, on retrouve la position des théologiens. Et chez les théologiens, presque chez tous les théologiens, le problème que s'est posé le père de l'Église va se poser avec une très grande acuité. L'intelligence humaine peut-elle découvrir l'existence de Dieu? C'est ce problème-là que nous trouvons dans la Somme, dans les cinq voies de saint Thomas. Alors, si vous voulez, avant de regarder la Somme, regardons comment ce problème s'est posé dans saint Thomas à travers toutes ses œuvres. Autrement dit, c'est un très bon moyen pour ceux qui s'intéressent à saint Thomas. C'est un très bon moyen pour regarder l'évolution de la pensée de saint Thomas. C'est même peut-être le meilleur. Et il me semble que les historiens n'ont pas assez regardé. Les historiens ont voulu classer les œuvres de saint Thomas, indépendamment de ce problème-là. Alors que je crois que c'est le problème du sommet. C'est forcé. Hein? C'est toujours par le sommet qu'on peut le mieux comprendre où l'intelligence humaine aboutit. Or, si vous regardez, premier moment où saint Thomas parle de ce problème, c'est dans son commentaire des sentences. Sans doute 1252, comme date. Les sentences, c'est Pierre Lombard, et saint Thomas commente les sentences. Eh bien, c'est très curieux de voir que dans le commentaire des sentences, on est en face d'une position que saint Thomas ne prendra absolument plus après. Il va complètement abandonner cette position. Cette position des sentences est entièrement commandée par la position de Denis. Et la position de Denis, elle est commandée par le fait qu'il y a trois moyens pour nous d'aboutir à l'existence de Dieu. Per modum causalitatis, per modum negationis, per modum eminentiis. Il y a trois manières pour nous d'atteindre l'existence de Dieu. Par mode de causalité, par mode de négation, par mode d'éminence. Et alors, saint Thomas va essayer, c'est très curieux, c'est génial au point de vue commentaire, c'est moins génial au point de vue pensée, mais c'est très génial au point de vue commentaire. La manière dont il va prendre le texte de Pierre Lombard pour essayer de comprendre comment nous trouvons, à travers le texte de Pierre Lombard, nous trouvons cette griffe de Denis. On aboutit à l'existence de Dieu per modum causalitatis, per modum negationis, per modum eminentis. Je n'insiste pas, puisque de fait, cette position est intéressante au point de vue historique, mais elle n'aboutit pas, c'est bien évident. Elle est quelque chose qui n'aboutit pas. Le grand moment le plus important, selon Gilson, un historien, saint Thomas, c'est le livre du DNT et De Essentia. Le DNT et Essentia. Ça, beaucoup mieux. Ceux qui s'intéressent à saint Thomas. Le commentaire des sentences n'est qu'en latin. C'est difficile. J'ai traduit les textes principaux, mais au fond, on n'est qu'en latin. Tandis que dans le DNT Essentia, vous avez des traductions plus ou moins bonnes, mais vous avez des traductions du DNT Essentia. Eh bien, dans le DNT Essentia, qui est un livre de réflexion philosophique, comme le nom l'indique, voyez, au sujet de l'être et de l'essence. C'est le jeune saint Thomas, philosophe. Un mémoire de licence intelligent. Je ne sais pas si aujourd'hui il passerait, mais ça fait rien. c'est un moine intelligent. DNT, sensia. Réflexion de saint Thomas sur ce que c'est que l'être et les sens. Et alors, dans cette réflexion, saint Thomas va montrer comment c'est par l'essai qu'on doit pouvoir remonter jusqu'à Dieu. Mais il le fait par mode d'hypothèse. Hein. Je vous lis ce petit passage, parce que ça c'est quand même un petit passage important, où Gilson, le premier Gilson, hein, le premier Gilson a dit que c'était ce passage-là qui était capital et qui nous donnait la clé pour comprendre les voies de saint Thomas. Et puis le second Gilson dit qu'il s'est trompé. Et des livres continuent en regardant le premier sans regarder que le second Gilson a dit que c'était trompé. Alors, je vous dirais méchamment ceux qui font ça. Ils ont oublié que Gilson avait dit ça. Alors, il dit selon Gilson, on dit ça. Mais non, Gilson a dit l'inverse. C'est très curieux. Hein. C'est intéressant, tu vois, ce petit passage. Alors, je vous le lis. Donc, c'est dans le DNT, Sensia, chapitre 4. Tout ce qui n'appartient pas au contenu intelligible de l'essence ou de l'acuité lui advient de l'extérieur et fait une composition avec l'essence. Parce qu'aucune essence ne peut être saisie par l'intelligence sans les éléments qui en sont éparpillés. Or, toute essence ou quidité d'une réalité peut être saisie par l'intelligence sans que soit saisi quelque chose de l'exister, de l'essai de cette réalité. Je puis en effet saisir ce qu'est l'homme ou le phénix et cependant ignorer s'ils existent dans la réalité. Oui, tout à fait Descartes, ça. Exactement ça. Je saisis le cuivre, l'essence, sans saisir s'il existe ou pas. Il est donc manifeste que l'essai est autre que l'essence ou l'acuité. Il faut saisir l'essence du phénix. Est-ce qu'il existe ou il n'existe pas ? J'en sais rien. C'est très délicat ce passage, hein. Vous savez ce que dit Aristote ? Il dit qu'Aristote, il y a toujours la connaissance du tauti avant la connaissance du tiesti. Si une réalité n'existe pas, est-ce que je peux saisir son essence ? Je peux imaginer. Je peux faire des possibles. Mais ce n'est pas l'essence, ce n'est pas l'acuité. Premier saint Thomas. Avicénien. Hein ? Avicénien. C'est Avicenne, ça, c'est tout à fait de l'Avicenne. C'est pas aristotélicien. À moins que peut-être il existe une réalité, à moins que peut-être, hein, misi forte sit aliquares, à moins que peut-être il existe une réalité dont la quidité soit son propre essai. Oui, saint Thomas se met à rêver. Mais peut-être qu'il existe une réalité dont s'existant son essence est existée. C'est un vrai tout. Qu'est-ce qu'il a dit ça, hein? Mais c'est pas une preuve, hein? C'est un beau rêve, hein? C'est un rêve pieux. Non, c'est... À moins que peut-être il existe une réalité dont l'acuité soit son propre essai. Et cette réalité ne peut être qu'unique. Ah, le rêve se réalise. Et cette réalité ne peut être qu'unique et première, parce qu'il est impossible qu'une pluralité soit introduite dans quelque chose autrement que par addition d'une différence. Or, si l'on pose une réalité qui soit seulement essai, de sorte qu'elle soit l'essai même subsistant, cet essai ne recevra pas l'addition d'une différence, parce qu'alors il ne serait plus essai seulement, mais essai et en outre une certaine forme. Il reste donc qu'une telle réalité qui soit son propre essai ne peut être qu'unique. Il faut donc, vous voyez comment on passe d'hypothèse à l'affirmation. Il faut donc qu'en toute réalité autre qu'elle, autre soit laissée, autre l'acuité ou nature. C'est merveilleux dans l'ordre du possible. C'est en plein d'Avicenne. C'est merveilleux dans l'ordre du possible. C'est merveilleux dans l'ordre du possible, je peux très bien réaliser ça. Alors c'est très curieux, vous voyez, Gilson dit que, oh, le premier Gilson dit que c'est là qu'il tient. Or, si vous êtes attentif, ça ne prouve rien. C'est simplement une réflexion que saint Thomas fait entre le point de vue de l'essence et de l'essai. L'essai, acte d'être, l'essence est capable d'être actuée par l'être d'être. Alors, s'il existe peut-être une réalité dont l'essence est l'essai, cette réalité est unique. Si cette réalité est unique, toutes les autres, au contraire, il y a une distinction entre les deux. Vous voyez que ça peut produire. C'est une réflexion sur ce cas possible, et puis c'est tout. Remarquons bien, ça c'est le petit jugement, que la conclusion de ce raisonnement ne porte pas sur l'existé de Dieu. Après avoir ainsi démontré qu'en toute réalité autre que celle, s'il existe évidemment, dont l'acuité est son essai, la forme est distincte de l'essai. Et donc, dans l'intelligence, l'essai est distinct de la forme. Saint Thomas poursuit son argumentation. Alors, je vous le lis encore, parce que c'est un lieu très connu, c'est un lieu, je vous dis, où Gilson a cru avoir une intuition merveilleuse. Or, tout ce qui convient à quelque chose, ou bien est causé par les principes de sa nature, comme le risible dans l'homme, ou bien advient en vertu de quelque principe extrinsèque, comme la lumière advient dans l'air par l'influence du soleil. Or, il ne peut se faire que l'essai lui-même soit causé par la forme même ou l'acuité de la réalité. J'entends causé comme par une cause efficiente. Parce qu'ainsi, une réalité serait cause d'elle-même, causa sui. Et une réalité se produirait elle-même dans l'essai, ce qui est impossible. Il faut donc que toute réalité, telle que son essai est autre que sa nature, tienne l'essai d'un autre. Et parce que tout ce qui est par un autre se ramène à ce qui est par soi comme à sa cause première, il faut qu'il existe une réalité qui soit cause d'être pour toutes les réalités, du fait qu'elle-même est essai seulement. Autrement, on irait à l'infini dans les causes, puisque toute réalité qui n'est pas essai seulement a une cause de son essai, comme on l'a dit. Il est donc manifeste que l'intelligence est forme et essai, qu'elle tient l'essai de l'ense premier, qui est l'essai seulement, et telle est la cause première qui est Dieu. Hein, vous voyez comme raisonnement, c'est extraordinaire comme chose. Nous avons ici cette fois une argumentation positive et non plus hypothétique, manifestant l'exigence de poser un ens premier, cause première qui est Dieu. Il faut qu'il existe une réalité qui soit cause d'être et telle est la cause première qui est Dieu. Cependant, il faut bien saisir que le caractère propre de cette argumentation est son intention profonde. Saint Thomas veut-il vraiment par là donner une démonstration de l'existence de Dieu? Il faut qu'il existe une réalité. Cette conclusion est-elle bien le terme d'un raisonnement pour Saint Thomas? Est-ce qu'il se proposait vraiment de démontrer l'existence de Dieu? N'est-ce pas plutôt une étape? Saint Thomas en effet continue. Or, tout ce qui reçoit quelque chose de quelqu'un est en puissance à l'égard de cela qu'il reçoit. Et ce qui est reçu en lui est en son acte. Il faut donc que l'acuité elle-même, ou forme qui est l'intelligence, soit en puissance à l'égard de l'essai qu'il reçoit de Dieu. Et cet essai est reçu par mode d'acte. Ainsi, la puissance et l'acte se trouvent dans les intelligences, mais non cependant la forme ou la matière, si ce n'est de manière équivoque. Ça, c'est très intéressant, parce que ça montre que saint Thomas très vite a compris que la distinction de la matière et de la forme était vraie au niveau du devenir, mais n'était plus vraie au niveau du nous séparé. Alors, certains, considérant matériellement ce chapitre du DNT Essentia, y trouvent une preuve de l'existence de Dieu. Une preuve d'allure métaphysique, car elle s'appuie sur l'analyse métaphysique de l'être fini comme tel. Vous comprenez très bien c'est qui. Hein? C'est ceci existe pour Gilson et pour le père Gilet. C'est ennuyeux. Qui était père général des Dominicains, tu vois. Là, il faut quand même dire qu'il est considéré. Il est mort depuis longtemps. Là. Il la considère même comme la preuve la plus profonde de saint Thomas. Et la seule qui soit vraiment métaphysique. Ça, c'est le con. En réalité, si l'on regarde attentivement la démarche de saint Thomas, on voit qu'il s'agit plus d'une réflexion critique sur la structure essentielle de ce qui est que d'une démonstration proprement dite de l'existence de l'être premier. Je crois que c'est beaucoup plus ça que fait saint Thomas. Mais c'est un lieu important. C'est un lieu important. Il a donné lieu à beaucoup de discussions et il continuera de donner lieu à beaucoup de discussions. N'est-ce pas ? Parce que c'est pas commode du tout, ce passage. Mais je crois que c'est beaucoup plus une attitude de réflexion critique de saint Thomas. Vous avez ensuite un tout petit passage très intéressant du De Veritate. De Veritate, question 10, article 12. Parce que je crois que c'est la première fois où l'on voit saint Thomas se faire.